France Inter, le 18-20.
Un 18-20 consacré à la crise du coronavirus ce soir encore, avec tout d'abord jusqu'à 19h, cette question: comment réussir le déconfinement? Question d'autant plus cruciale que la date du 11 mai, que nous avons tous en tête, pourrait être remise en question, comme le dit le ministre de la Santé, Olivier Véran, aujourd'hui dans Le Parisien. Alors jusqu'à 19h, nous allons essayer de voir quelles seraient les clés d'un déconfinement réussi pour éviter un rebond de l'épidémie. Nous allons en parler avec la virologue Marie-Paule Chieni, directrice de recherche à l'INSERM, ancienne directrice générale adjointe de l'OMS, et avec le psychiatre Patrick Clairvoyt. Car dans cette histoire, nous sommes à la fois des vecteurs et des acteurs de cette pandémie qui est venue bouleverser nos vies. Cela dit, certains ont pris les choses à bras le corps, c'est ce que l'on verra ce soir encore avec Philippe Bertrand et son carnet des solutions dans le cadre de notre rubrique « Confiné mais pas résigné » juste avant 19h. Ensuite, le journal d'Yves Decaen. Et puis à 19h20, le téléphone sonne qui sera consacré ce soir à la vie d'après. Dites-nous si ce virus a changé votre façon de voir les choses et si tout cela vous amène à revoir par exemple vos priorités dans la vie. Alors n'hésitez pas à appeler le 01 45 24 7000. D'avance, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, Irène Menem, Virginie Rouzic, Mathilde Clatt. Merci aussi à Olivia Ferrandi, à la rédaction en chef, à Loïc Frapsos et Clément Berman à la technique. Et merci aussi à nos standardistes qui attendent donc vos appels aussi bien sur l'épidémie que sur la vie d'après.
Claire Servageant. Le 18-20.
Bonsoir Marie-Paule Chieni.
Bonsoir.
Vous êtes virologue, directrice de recherche à l'INSERM, ancienne sous-directrice générale de l'OMS, je le disais. Vous êtes membre du CAIR également, le comité d'analyse, de recherche et d'expertise qui est chargé de conseiller l'exécutif sur l'épidémie de Covid-19, notamment en matière de recherche. Alors, nous sommes le 3 mai, le Covid-19 a fait près de 250 000 morts dans le monde, près de 25 000 en France. Le président Macron nous a donné il y a 3 semaines un horizon, celui du 11 mai, pour commencer le déconfinement. Depuis, on surveille la courbe des malades et des hospitalisations comme le lait sur le feu. Pensez-vous, vous, que les dernières données dont on dispose permettront de commencer à desserrer l'étau du confinement à partir de la semaine prochaine?
Alors, je n'ai pas de boule de cristal et on a encore 8 jours, mais il est exact qu'il faut faire attention à ne pas en fait déconfiner avant la date du déconfinement et à continuer à rester confiné, à appliquer les gestes barrières pour qu'on arrive vraiment à engager ce déconfinement dans les meilleures conditions. Donc, on est tout à fait encore dans les clous, mais attention aux petits manquements qui commencent à se arriver ça et là. C'est sûr, les gens sont fatigués du confinement, mais il faut encore du courage, il faut encore rester bien chez soi jusqu'au 11 pour que enfin le 11 on puisse démarrer ce déconfinement.
On nous dit que le facteur de reproduction du virus, qui était descendu à 0,5, est remonté à 0,6. Est-ce que vous pourriez nous dire d'abord si c'est grave, une remontée de 0,1, et puis comment est-ce qu'on peut l'expliquer?
Alors, c'est pas grave. Tant qu'il reste en dessous de 1, on est encore assez bon. Ce qui est mauvais signe, c'est qu'il y a une augmentation. Alors, à quoi est-ce que ça peut être dû? Eh bien, le temps était assez beau, pas cette semaine, mais pendant pas mal de temps. C'est vrai que le confinement quand même est douloureux pour beaucoup de gens, et donc disons l'adhérence aux pratiques qui sont conseillées, qui sont demandées à tous les citoyens, a peut-être commencé à se relâcher un petit peu. Et donc, pour le moment, ça ne remet pas en cause, je pense, les plans de déconfinement, mais il faudrait pas que de jour en jour, on voit ce taux de reproduction augmenter.
Alors, ce taux, il est dû au fait qu'il y a des contacts entre les gens, c'est ce que vous dites, mais est-ce que c'est pas aussi dû au fait qu'on a renvoyé chez eux les cas suspects sans les tester? Ça, depuis un mois et demi, c'est quand même ce qui s'est passé. On ne les a pas isolés. On n'a pas pris ce genre de mesures jusqu'à présent.
Alors, c'est effectivement ça le grand problème, et c'est comme pour ça que l'épidémie s'est propagée autant qu'elle s'est propagée. En fait, on a abordé cette épidémie sans avoir suffisamment de tests et sans avoir toute la logistique en place pour pouvoir non seulement détecter les cas, mais aussi suivre leurs contacts, les isoler si c'est possible. Et donc, on n'était pas très très bien parti dans les premières phases. Alors maintenant, on a eu maintenant quelques semaines, quelques mois pendant le confinement pour se préparer. On a maintenant beaucoup plus de tests. Ces tests ont pu être validés. Y en aura-t-il suffisamment? Il faudra le voir. Mais il faudra, c'est sûr, passer à la vitesse au-dessus pour détecter les malades, pour aussi recenser leurs contacts, pour pouvoir leur dire éventuellement de se mettre eux-mêmes volontairement à l'isolement, et pour pouvoir casser ces chaînes de contamination qui sont aussi, il faut s'en souvenir, aussi souvent au sein de la famille.
Absolument. Alors c'est justement ce qu'on va faire à grande échelle, ce qu'on nous annonce à présent de remonter la trace des contaminations des personnes au contact des malades. Des brigades d'anges gardiens, ce sont les termes du gouvernement, seront chargés de ce suivi qui se fera à plusieurs niveaux. Les médecins généralistes auront un rôle essentiel. On en parle dans un instant, Marie-Paul Kieny, mais d'abord les précisions de Daniel Messager.
Dès le 11 mai, c'est auprès du médecin généraliste que commence le tracing de niveau 1. C'est lui qui va recevoir le patient qui présente les symptômes d'une contamination, qui va le faire entrer dans la chaîne de suivi. Docteur Jacques Battistoni, président du syndicat des médecins généralistes MG France.
On identifie donc un cas diagnostiqué et à partir de là, on commence cette recherche. Ça n'est pas notre travail de faire une enquête approfondie, de prendre le téléphone, mais on repère dans l'entourage de ce patient quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'avoir été contaminées pour que on puisse protéger le maximum de personnes.
Le niveau 2, c'est l'assurance maladie. Le contact Covid se met en place avec une brigade d'au moins 5000 personnes pour rechercher et accompagner les cas contacts, médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, mais aussi membres de la Croix-Rouge qui seront formés. Marc Ziltmann, administrateur national.
Cette formation, c'est une formation avant tout pratique. Comment poser les bonnes questions? Comment réagir sur certaines situations qui peuvent être complexes? Le ministre a parlé de brigade d'anges gardiens. Moi, c'est une expression qui me va bien. Ce que peut apporter la Croix-Rouge, c'est le fait de prendre soin, d'apporter de la confiance, de l'humanité dans une situation inédite et qui est anxiogène.
Il n'y aura pas de mesure coercitive pour les personnes positives à qui il sera demandé de s'isoler. Olivier Véran fait confiance à l'esprit de responsabilité des Français.
Marie-Paul Kieny, on nous parle de 3000 personnes formées pour tracer les contacts. D'après vous, compte tenu de l'étendue de cette épidémie en France, est-ce que ce sera suffisant?
Il faut regarder à l'usage. En fait, c'est une mesure qui commence à être mise en place, mais c'est déjà très bien. Voyons si 3000 c'est suffisant. Il faut commencer. Autrement, il en faudra sûrement en former d'autres. Vous savez, cette technique qu'on va utiliser maintenant de chercher les contacts et de les isoler, de leur demander de s'isoler, est vraiment le béaba de ce qui se fait pour éviter les maladies infectieuses. Par exemple, comme on le voit en Afrique de l'Ouest, comme on l'a vu dans la République démocratique du Congo, c'est ceci qui a permis de faire reculer les infections d'Ebola. Et on demande à ces pays, qui ont pourtant des systèmes qui ne sont pas très solides, pas très robustes, en fait, de faire exactement ça. Pour arriver à arrêter l'épidémie d'Ebola, il faut arriver à identifier tous les malades, demander aux malades et à leurs proches de faire la liste de leurs contacts, rechercher tous ces contacts, les prévenir qu'ils ont été en contact, leur demander de s'isoler. Et dans le cas d'Ebola, il y a maintenant un vaccin, mais à l'époque où il n'y avait pas de vaccin, c'était la seule façon d'arrêter ces épidémies. Et on espère que ce sera aussi le cas pour le Covid-19.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que au tout début de l'épidémie de coronavirus, quand il y a eu les deux premiers foyers dans l'Oise et en Haute-Savoie en France, on a procédé de cette façon. Puis après, quand on est arrivé à la phase 3, ça a plus été possible. On n'était pas prêt, en fait, c'est ça?
Je pense qu'on n'était pas prêt, parce que si on avait été prêt à le faire, on aurait pu continuer. Regardez, c'est ce qu'a fait la Chine, en fait. C'est comme ça qu'ils ont pu réussir à arrêter, en fait, l'épidémie sur leur sol, en dehors du confinement de Wuhan et de sa région. C'est par le biais d'armées complètes de ces anges gardiens, je pense pas qu'on les appelait comme ça, mais qui ont permis donc de remonter à tous les cas, d'isoler ces cas, et jusqu'au moment où on a pu voir s'ils étaient infectés ou pas.
On était prêt, en fait, Marie-Paul Kieny, ni pour les tests, ni pour les masques. Qu'est-ce qu'on a fait? On a géré la pénurie avec un discours politique pas toujours très clair, faut le dire.
Bon, alors, il faut dire quand même que les tests ont mis du temps à se mettre au point. C'était une maladie quand même tout à fait neuve. Il faut penser, on est quoi, à 5 mois. Il y a 5 mois, qui s'y savait ce que c'est que le Covid-19. Donc, les tests ont mis un peu de temps à se développer. Peut-être n'a-t-on pas effectivement été suffisamment vigilant au début parce qu'en fait, on n'est pas habitué du tout, en fait, dans nos pays où il n'y a pas d'Ebola, où il n'y a pas de Lassa, où il n'y a pas de choléra, à ce qu'une épidémie infectieuse donc puisse bouleverser à ce point nos vies. Donc, il y a un mélange, je pense, du fait que c'était nouveau, et aussi au fait que les politiques, pendant longtemps, n'y ont pas cru. Quand ça allait mal en Chine, ils ont dit que la Chine, c'était loin. Après ça, ça n'allait pas en Italie, mais bon, l'Italie à des systèmes de santé peut-être parfois fragiles, et donc on a perdu du temps, oui.
Vous diriez que la culture du risque s'est un peu perdue dans notre société d'une certaine façon ?
Bah, c'est-à-dire à la fois, on a peur de tout, hein, le risque de ceci, de cela, mais le risque infectieux paraissait si loin, en dehors bien sûr de la pandémie de grippe, laquelle... on pense toujours, et qui est toujours une possibilité d'ailleurs, le fait qu'il y ait une pandémie de coronavirus n'efface pas le fait qu'on pourrait avoir après ça une pandémie de grippe, mais le fait que la dernière pandémie de grippe, la grippe H1N1 de 2009-2010, ait été si faible, disons, par rapport à ce qu'on pouvait attendre, a amené les politiques à relativiser le risque. Et donc, on n'a sûrement pas été prêt avec le nombre de masques qu'on aurait dû avoir en stock et une vigilance plus grande pour ces infections.
Alors, vous parlez des masques, c'est évidemment un des défis du déconfinement à venir, ces masques introuvables jusqu'à présent. La grande distribution promet d'en vendre par millions à partir de demain, ce qui ne manque pas d'ailleurs d'interroger les soignants par ailleurs. Dans l'Oise, un des départements les plus touchés, et pour cause, puisque c'est là qu'il y avait un des premiers foyers, des distributeurs de masques et de gel hydroalcoolique ont été installés par une société du Nord, le Distrib. Succès garanti, comme a pu le constater Rémi Brancato à Saint-André-Farivillé. Il s'agit donc d'un distributeur automatique dans lequel il suffit de mettre une pièce. Eh bien, ces distributeurs sont pris d'assaut.
Sur le petit parking à côté de la mairie du village de 500 habitants, le bonheur se trouve au distributeur.
C'est un masque et puis un gel.
Veuillez sélectionner.
Ah, ok. Voilà un deuxième masque. Je suis venue exprès pour ça, ouais, je l'ai vu sur Facebook.
Georgia habite au sud de Beauvais, à 30 km, elle travaille dans une école.
Je reprends le travail lundi, je suis cantinière et on doit les désinfecter toutes les cantines pour que les écoles reprennent. Donc je préfère avoir le mien de préférence. Mon frère qui est à Bordeaux, eux ils n'ont pas trop de cas. Et mes sœurs me disent surtout protège-toi, quoi.
Et en une semaine, alors que le déconfinement se profile, le distributeur est un succès.
J'en ai déjà pris, il y a une affluence assez importante.
Pour Annie qui habite juste en face, le besoin de protection se fait sentir.
Dans un petit village, il y a des gens qui ne peuvent pas encore se déplacer. Il faudra aller en pharmacie, il y en a une à 5-6 km. Mais elles n'en ont pas.
Alors en attendant mieux, c'est le mari de Lily Quashbeur, commercial pour la société de distributeurs automatiques, qui a proposé ses services à la mairie dans un département durement touché par le coronavirus.
On a été un cluster. Je pense aussi qu'on va être une des régions qui va quand même avoir des restrictions au moment du déconfinement, j'imagine. L'Oise a quand même été bien touchée. Et justement, ça répond à nos besoins.
À 11,40 € pour le kit avec masque en tissu réutilisable et gel, et 3 € pour le gel seul, les prix sont élevés. Mais le distributeur tombait à pic pour le maire Hervé Comelin, qui attend encore de pouvoir distribuer les masques gratuits de la région Hauts-de-France.
Je pense qu'il y a une inquiétude de la population, ouais. Il y en a beaucoup qui voudraient mettre ces masques. Nous, ça nous facilite un peu le travail, puisqu'on a une réponse à donner aux habitants.
Une réponse clé en main, et Nicolas Maton, le directeur général de la société Le Distrib, a déjà installé 17 de ses distributeurs, surtout dans le Nord.
On sent très bien que le fait de ne pas pouvoir se procurer de masques a été un gros, gros problème. Les gens se jettent dessus. Les machines sont réapprovisionnées 4-5 fois dans la même journée. On a beaucoup de retours de commerciaux qui disent il en faut partout, quoi.
Et son téléphone n'arrête pas de sonner dans l'Oise et ailleurs. D'autres mairies sont intéressées.
Voilà pour ce distributeur automatique. Demain, il paraît qu'il y aura des masques un petit peu partout, y compris dans les supermarchés. Marie-Paul Kenny, cette question des masques, elle est essentielle. Dites-nous, d'après vous, il faudrait les porter partout dans l'espace public ou dans les transports uniquement, les commerces ? Dites-nous.
Alors vous savez, il y a beaucoup de controverses vis-à-vis des masques. Est-ce qu'ils protègent ? Qui est-ce qu'ils protègent ? Quand faut-il les porter ? Alors, on peut penser quand même que le masque permet surtout, le premier objectif du masque, c'est en fait, c'est d'éviter quelqu'un qui est infecté et qui porterait un masque, donc de projeter des gouttelettes qui seraient infectées par le virus SARS-2. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de protéger, mais ce ne sont pas les mêmes masques, évidemment, protéger les soignants qui doivent venir à proximité des personnes qui sont malades et pour empêcher qu'elles-mêmes ne soient infectées par ces gouttelettes. Alors pour ce qui est de l'usage pour le grand public, pour les gens qui ne sont pas malades, il y a eu beaucoup de controverses. On a dit il n'y a pas besoin d'en avoir, puis on dit qu'on a besoin. Alors en regardant tout ce qui a été dit, en essayant de faire un peu une synthèse. Alors si on se promène à l'extérieur, dans la campagne, dans la rue, et on est à côté de personne, il n'y a pas besoin de porter un masque parce qu'on ne risque de contaminer personne et on ne peut pas être contaminé soi-même. On sait aussi que dans les environnements extérieurs, le virus n'est pas en suspension longtemps et on a beaucoup moins de risques. Alors, par contre, si on n'est pas malade mais qu'on se trouve dans un endroit confiné, comme dans un bus par exemple, les transports en commun, on peut se trouver effectivement à proximité d'une personne qui soit est malade, soit n'est pas encore malade, mais pourrait le devenir, une personne dite asymptomatique, qui pourrait donc, en respirant, en toussant, faire sortir des particules de virus, on est mieux protégé en portant un masque. Donc on va voir quelle est la recommandation, mais il semble qu'on s'avance vers une recommandation pour que tout le monde porte les masques dans les endroits confinés, comme dans les transports en commun.
Voilà, le masque sera une des clés du déconfinement le jour où il sera véritablement mis en œuvre. Parce que je rappelle que Olivier Véran, le ministre de la Santé, a lancé une mise en garde aujourd'hui. Il a dit la date de levée du confinement pourrait être remise en question. On va surveiller tout ce qui va se passer. Il y a encore près de 4000 personnes en réanimation. Vous, Marie-Paul Kieny, vous faites partie du CARE, le comité d'analyse, de recherche et d'expertise qui est chargé de conseiller l'exécutif. Pour l'instant, à ma connaissance en tout cas, cet organisme n'a pas fait connaître ses avis. Est-ce que vous pourriez nous dire, malgré tout, ce que vous recommandez, vous, au pouvoir public actuellement, et notamment par rapport à cette date du 11 mai concernant le déconfinement ?
Alors, le comité qui recommande surtout les politiques à suivre au gouvernement est plutôt le conseil scientifique. Le comité CARE est un comité très technique et c'est pour ça qu'on n'a encore pas publié en fait nos avis parce que ils sont extrêmement techniques. Mais le comité CARE a fait des recommandations sur les types de tests, par exemple, a fait des recommandations aussi à propos des vaccins et envisage actuellement de savoir comment communiquer avec le grand public d'une façon qui est compréhensible, qui n'est pas trop technique, mais qui quand même donne de la transparence sur les travaux du CARE. Donc, attendons encore quelques jours pour savoir comment ça va se faire.
Alors, on va être patient, Marie-Paul Kieny, oui.
Je reviens juste sur les... Allez-y, sur les conseils pour le gouvernement, sur les recommandations quant au confinement, c'est plutôt des recommandations qui viennent du comité scientifique, comme je l'ai dit.
Voilà, le comité scientifique, le conseil scientifique, il préconisait par exemple pour les écoles une réouverture en septembre. De votre côté, alors là je ne m'adresse pas à vous en tant que membre du CARE, mais en tant que virologue expérimenté, vous pensez que la réouverture des écoles la semaine prochaine, c'est quelque chose de raisonnable ?
Alors tout dépend dans quelles conditions, si on arrive à le faire comme veut le faire le gouvernement, avec une distanciation des élèves, avec des classes plus petites, ça vaut sûrement la peine d'essayer, parce que c'est vrai qu'on a des élèves qui sont en souffrance, et en fait on agrandit, on fait accroître les disparités et les inéquités sociales. Puisque les enfants des familles qui ont les moyens de s'occuper de leur scolarité sont en fait peuvent continuer à apprendre et les autres peuvent se trouver en situation d'échec. Donc il est urgent aussi de permettre à ces élèves de retourner à l'école. Alors on peut voir que dans les autres pays, puisque beaucoup de pays européens sont en train d'avancer prudemment dans leur déconfinement, qu'on a des approches très très différentes dans les pays, et certains déconfinent plutôt les magasins et pas les écoles, et d'autres d'abord les écoles et pas les magasins. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que les pays européens partagent leurs résultats sur ces différentes mesures de déconfinement pour essayer de voir qu'est-ce qui marche le mieux en tant que disons mesure pour redémarrer la vie sociale et la vie économique, tout en permettant au taux de reproduction de rester sous la barre des 1.
Voilà, parce qu'évidemment, ce qu'il faut, c'est concilier les impératifs liés à la propagation du virus et ceux liés à l'équilibre de la vie en société. C'est toute la difficulté. Vous restez évidemment en ligne avec nous, Marie-Paul Kenny, mais on va en parler à présent avec Patrick Clairvoy, qui est en ligne avec nous également. Bonsoir, Patrick Clairvoy.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de psychiatrie, ancien titulaire de la chaire de psychiatrie de l'école du Val-de-Grâce, c'est bien ça?
C'est ça.
Auteur chez Odile Jacob d'un ouvrage intitulé Les pouvoirs de l'esprit et du corps. Alors, le déconfinement à venir, on peut dire qu'on en sera les acteurs. Le ministre de la Santé le dit aujourd'hui dans Le Parisien, le comportement des Français va avoir un poids considérable. En gros, on nous dit, ben soyez sages et ça va bien se passer. C'est un petit peu ça le message?
Oui, et on peut prendre le message comme ça. En même temps, on peut le prendre dans une posture positive. Le confinement, pour moi, c'est une contrainte rigide, bien sûr, qui nous protège, mais qui a généré derrière beaucoup de souffrances, beaucoup d'attentes. Et vous avez beaucoup de gens qui ne tiendront pas forcément très longtemps encore leur obéissance civique, si je puis dire. Et donc, il y a lieu de prendre les gens sur le mode de l'invitation. On va inviter les gens à maintenir une posture mentale de confinement, mais en ambiance déconfinée. Ça veut dire que on va leur demander d'être eux-mêmes les acteurs de leur propre protection et la protection de ceux qui leur sont proches. J'ai développé avec un médecin urgentiste de l'hôpital Le Gouest de Metz, qui s'appelle Hugues Lefort, la notion de citoyen expert. Vous le trouverez sur le blog de l'éditrice Odile Jacob dans Idées pour aujourd'hui et pour demain.
On ira voir.
Le citoyen expert, voilà, merci beaucoup. Le citoyen expert, c'est celui qui va adopter pour lui, qui va intégrer toutes les mesures de protection, ce qu'on appelait les 4 M. Et chacun peut devenir ambassadeur des 4 M.
Alors expliquez-nous ce que c'est les 4 M.
Les mains, le masque, le mètre, c'est-à-dire la distanciation sociale, et M, c'est la minute, c'est la notion de limiter le temps d'exposition aux ambiances susceptibles de contenir le coronavirus. Et il y a toujours une minorité de personnes qui ne suivront pas. Mais retenez qu'il faut faire confiance à la majorité des gens. Il faut leur faire confiance. Si on leur explique, si on leur montre, et bien évidemment, comme je l'ai entendu tout à l'heure, si on leur donne les moyens, par exemple, d'avoir des masques, eh bien, les gens vont adopter par eux-mêmes des postures protectrices, et tous ceux qui vont voir les autres par imitation vont eux-mêmes adopter ces mesures. Et donc, je crois qu'il faut vraiment faire confiance aux gens. Moi, la majorité des gens, je crois tout à fait qu'ils sont en mesure maintenant de sortir de la rigidité, de la contrainte du confinement et de prendre la souplesse adaptative, c'est-à-dire maintenir un auto-confinement, parce que quand j'ai mes gants, mon masque, que je garde la distance sociale et que je cherche à minimiser mes temps d'exposition, quelque part, je sors dehors comme un scaphandrier sortirait d'une navette spatiale ou d'une station spatiale, c'est-à-dire que je sors de chez moi avec la posture de protection. Et faisons confiance aussi au temps. Évidemment, on ne sait pas encore aujourd'hui quelles seront les mesures d'adaptation que nous serons obligés de prendre. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on va regarder ce qui marche, on va regarder ce qui marche pas. Et nous apprend la particularité de cette crise depuis qu'elle nous arrive, depuis 2 mois, c'est que nous sommes obligés d'apprendre très vite et au fur et à mesure. Mais en 2 mois, nous avons déjà appris beaucoup de choses. Donc, moi, je fais vraiment confiance aux gens auxquels, quand on leur a bien expliqué, bien montré, quand le collectif citoyen adoptera ces gestes, je suis convaincu que la très grande majorité des gens saura l'adopter.
Parce que c'est normal.
Patrick, il restera.
Pardonnez-moi, Patrick Lavoie. Est-ce que c'est normal d'avoir une forme d'appréhension par rapport au déconfinement? Ah, il y a un certain nombre de gens qui ont peur.
Ah, mais je vais vous dire, il y a deux catégories de personnes. Là, j'ai entendu parler des personnes qui seront susceptibles de ne plus suivre les mesures de confinement. Mais il va falloir être attention aux personnes qui hésiteront à se déconfiner. Et à celles-là aussi, il faudra leur donner confiance pour qu'elles réapprennent l'espace extérieur et réapprennent les comportements sécurisants pour eux-mêmes pour se préserver de l'espace extérieur. Nous avons tous été bousculés par la survenue de la pandémie. Et puis, il y a eu les mesures de confinement. Et puis, passé les 15 premiers jours, nous avons pris des routines de confinés. Et aujourd'hui, le confinement est encore assez facile à tenir pour la majorité d'entre nous, parce que ça y est, on est rodé, on sait ce que c'est. Mais le déconfinement, c'est nous rebousculer à nouveau, réapprendre notre univers habituel, mais avec des gestes qui, eux, ne sont pas encore dans nos habitudes. Donc oui, ça va nous bousculer, il y aura un stress, mais si on sait se motiver, regarder, observer, être adaptatif, être inventif, je vous donne un exemple. On ne peut plus se donner la main, on ne peut plus prendre la main. Nous n'avons pas encore intégré les gestes qui viendront remplacer ces comportements habituels que nous avions pour montrer le respect ou l'attachement des personnes que nous aimons. Mais je fais confiance aux jeunes, je fais confiance aux gens tout simplement, qui vont probablement inventer différents gestes, et puis un jour va probablement émerger, je ne sais pas qui va l'inventer, mais je suis convaincu qu'il va être inventé, quelqu'un va inventer le geste qui va remplacer ça et que nous apprendrons à faire spontanément pour retrouver dans notre quotidien, par exemple, les gestes de courtoisie, de respect et de salut.
Absolument. Et d'ailleurs, nous avons, pardon, Patrick Lavoie, une question sur franceinter.fr de Géraldine qui nous dit, mais quid justement de ces liens d'attachement qui font notre humanité? Elle vous demande comment justement on va faire pour retrouver ces liens.
Alors, il y a, si on regarde bien, il y a déjà des civilisations qui pratiquent ces gestes sans contact. Vous allez en Extrême-Orient, au Japon par exemple, c'est le geste de joindre les mains, basculer un tout petit peu le corps en avant et incliner la tête. Dans les pays du Maghreb, par exemple, il y a le geste de présenter la paume de la main droite et de la mettre sur le cœur. Voilà deux gestes qui montrent le respect et l'estime qui entrent dans les gestes barrières, si je puis dire. Maintenant, j'entends bien qu'on dit, mais quel geste devrais-je faire? Pour le moment, je vous dis, il y en a quelques-uns. Mais je ne doute pas que nous allons très rapidement inventer les gestes qui vont les remplacer. Le masque va nous priver de regarder les mimiques. Or, la mimique, c'est toute la communication infraverbale avec laquelle nous régulons tous les jours notre contact avec les autres. Eh bien, nous allons apprendre, par exemple, à regarder les yeux. Et il y aura le sourire des yeux avec le petit plissement des paupières qui veut dire « je t'envoie un sourire ». Donc, on va trouver ces gestes. Ce que je voudrais qu'on donne aux gens, ayez confiance, à mesure que nous avançons, nous trouvons, d'abord nous cherchons, et nous trouvons les réponses à la situation nouvelle à laquelle nous sommes confrontés. Et ce que je voudrais vraiment faire entendre aussi à ceux qui nous donnent les directives, le confinement était très rigide, on en avait besoin pour déjà nous protéger, et avec le confinement, on a acheté du temps pour que nous puissions avoir des lits disponibles en réanimation. Mais maintenant, il faut aussi faire confiance. Alors, pour faire confiance, il faut déjà nous responsabiliser. Si on se sent traité comme des enfants qui seront grondés dès qu'on sera sorti d'une limite, c'est pas forcément une très bonne chose, et c'est pas être citoyen. Toute l'histoire de France, en tous les cas des 200 dernières années, si je puis dire, c'est quand des gens se sont mobilisés pour créer le monde de demain qu'il voulait faire.
Donc il faut qu'on soit des acteurs. Patrick Lavoie, je vais vous arrêter là, on va reprendre cette discussion dans un instant, si vous le voulez bien, et on va aussi discuter avec Marie-Paul Kieny, on va reparler de tout ça. Le temps d'écouter les humains voyous.
T'as fait le tour de la ville et tout le tour de la planète. T'as mis le pied dans des îles où t'étais analphabète. T'en as vu passer des styles de filles et de garçons. Et t'en as croisé des bribes de vie et d'horizon. Mais un beau voyage, c'est la prison. Quand t'as quelqu'un qui t'aime à la maison. Et y a des humains de toutes parts, des grands, des tout petits. Tu zigues, tu zagues au milieu des vagues d'humains de maison. Tu traînes ta trogne au gré des horaires et des saisons. Après quatre vols, c'est pas de bol. Chez elle, c'est la nuit, c'est d'un ennui. T'es seul au bout du planisphère et seul au bout du fil et de ta vie. Tout c'est beau. Voyage, c'est la prison. Quand t'as quelqu'un qui t'aime à la maison. Et y a des humains de toutes parts, des grands, des tout petits. Des foules de visages et de vies qui s'activent jour et nuit. Et de ces humains de toutes parts qui sont passés devant tes yeux.
Choix musical signé Muriel Pérez.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Quelles sont les clés d'un déconfinement réussi? On en parle jusqu'à 19h avec nos deux invités, la virologue et chercheuse à l'INSERM Marie-Paul Kieny et le psychiatre Patrick Clairvoy. Patrick Clairvoy, je reviendrai vers vous dans quelques minutes, mais j'ai un certain nombre de questions à poser à Marie-Paul Kieny concernant ce virus qui nous empoisonne la vie depuis deux mois maintenant. Marie-Paul Kieny, ce virus donne des formes de maladies très différentes. Est-ce qu'on a déjà vu ça avec un virus, des formes aussi différentes, respiratoires, neurologiques, cardiaques?
Alors, ça peut arriver avec d'autres virus, d'autres maladies infectieuses. Effectivement, vous savez aussi que les manifestations du VIH, par exemple, sont très très différentes aussi selon les infections opportunistes qu'elles génèrent. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau, mais c'est une maladie tellement nouvelle, celle-ci, qu'effectivement, on en découvre un peu tous les jours. Alors, parmi les plus récentes, effectivement, c'est une forme de pathologie grave qu'on a vue chez les enfants, alors qu'on pensait jusqu'à présent que les enfants ne faisaient en général pas de maladies graves. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention. Et je suis un peu sceptique quand je vois, par exemple, que dans le milieu scientifique, certains groupes envisagent de pratiquer, pour pouvoir tester l'efficacité de vaccins candidats, de pouvoir utiliser ce qui s'appelle des challenges, des épreuves virulentes, donc de prenant des volontaires sains à qui qu'on vaccinerait et à qui on injecterait après du virus volontairement à petite dose pour voir s'ils sont protégés ou pas. Mais en sachant que c'est une maladie qui n'arrête pas de nous sortir de nouveaux symptômes du chapeau, c'est une approche qui me paraît un peu dangereuse.
Donc il faut faire attention aux vaccins qui sont en préparation. Concernant l'immunité acquise ou pas par ceux qui ont été contaminés, quand est-ce qu'on aura des tests sérologiques fiables qui nous permettront de savoir le degré de protection dont on bénéficie ou pas?
Alors, d'abord, j'ai pas dit qu'il fallait se méfier des vaccins en cours de développement. Ne me prenez pas mal. J'ai dit qu'il fallait faire attention à des approches qui viseraient à tester l'efficacité d'un vaccin par l'injection volontaire, chez des volontaires d'ailleurs, du virus SARS-2. C'est ça qui est dangereux, pas les vaccins qui sont en développement. Alors, pour revenir à votre question, les tests. Alors, les tests sérologiques peuvent déterminer si quelqu'un a été en contact avec le virus, mais ne peuvent absolument pas déterminer si vous êtes protégé et comment, etc. En effet, pour qu'il puisse le déterminer, il faut encore savoir beaucoup d'autres choses, et en particulier savoir s'il y a ce qu'on appelle des corrélats de protection. Ça veut dire, est-ce qu'on peut voir qu'avec un certain niveau d'immunité et un certain type de réponse immunitaire, les gens sont protégés? Alors ça, c'est une étape beaucoup plus avancée que ce qu'on a maintenant, et pour le moment, les tests sérologiques pourront tout simplement nous dire est-ce que oui ou non, on a déjà rencontré ce virus.
Marie Bolkini, est-ce qu'il y a suffisamment de coordination au niveau international en matière de recherche actuellement?
Alors, dans toutes les crises, vous savez, moi j'ai vécu la pandémie de grippe, Ebola, etc., il y a toujours une phase extrêmement désordonnée. Et puis après ça, les choses se mettent en place. Alors dans cette crise-là, pour la recherche, on était déjà relativement bien avancé depuis le début, parce que l'OMS a mis en place quelque chose qui s'appelle le R&D Blueprint, qui est un plan de préparation pour la recherche dans les urgences. Donc dès le début, l'OMS a donc pu appeler les scientifiques, les instituts de recherche du monde entier pour se mettre ensemble et pour partager ce qui était connu, pas connu, et ce qu'ils voulaient faire, quelles recherches ou comment. Alors de ce point de vue-là, c'était déjà mieux que pour les autres crises. Les scientifiques ont continué à partager les données scientifiques, les séquences, donc l'identité des souches depuis le début, et ça, c'est aussi un point très positif. Alors il est vrai que en fait, on a quand même un problème de coordination, qu'une nouvelle initiative qui est mise en place maintenant par tous les pays du monde, la France a pris un rôle de leader là-dedans, veut maintenant amener tous les pays ensemble, et une importante réunion aura lieu demain, qui va être présidée par la Commission européenne, pour amener les gouvernements, les organisations charitables à faire des promesses de dons, si je peux dire, et on veut promettre plutôt plusieurs milliards d'euros, en fait, pour arriver à mettre en place une recherche, et qui soit une recherche très coordonnée, à la fois sur les diagnostics, les médicaments, les vaccins, et aussi sur des aspects de système de santé qui sont indispensables à prendre en compte.
Marie-Paul Kieny, ce virus, d'après vous, on va devoir vivre longtemps avec lui?
Alors, il faut voir, j'ai pas de boule de cristal, mais très très vraisemblablement, il va être avec nous pendant un certain temps. Alors, est-ce que ça va devenir comme la grippe saisonnière qui est avec nous chaque année pendant l'hiver? Est-ce que c'est une maladie qu'on aura toute l'année ou seulement dans la saison froide? C'est difficile de dire, donc en ce moment, on ne peut faire que ce que votre invité a dit, c'est-à-dire prendre les précautions et suivre autant que possible les recommandations des autorités de santé. Alors j'ai un ami que j'ai retrouvé d'ailleurs tout à fait par hasard, parce que à cause de la pandémie, il m'a entendu quelque part à la télé ou à la radio, qui m'a recontacté. Il me dit, voilà ce que je suggérerais. Je suggérerais d'utiliser le slogan « Après le confinement chez soi, le confinement sur soi ». Ça veut dire effectivement, il faut se confiner sur soi, c'est-à-dire penser soi-même à respecter les distances, le lavage des mains, le port du masque, et le faire volontairement.
Eh bien, merci pour cette transition qui me permet de repasser la parole à Patrick Clairvoy. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion de confinement sur soi?
Ah, ça me plaît beaucoup, le confinement sur soi. Et voyez, on change de posture, c'est-à-dire que d'une posture passive, contrainte, d'être confiné dans son domicile, l'idée qu'on peut revenir dans le monde, réhabiter le monde, réorganiser le monde, parce que soyons clairs aussi, cette catastrophe qui nous bouscule actuellement, c'est l'opportunité pour fabriquer aujourd'hui le monde meilleur que nous souhaitons pour demain. Oui, il y a, j'en parle, je dirai deux mots après, mais il y a des drames.
On devrait peut-être mieux le dire maintenant, parce qu'en fait, on n'a plus que trois petites minutes, alors allez-y. Hein.
D'accord. Alors, j'ai de la peine pour les gens qui sont décédés, pour les drames de ceux qui n'ont pas pu accompagner leur famille. Mais derrière ça, il y a vraiment aujourd'hui l'idée que il faut dire aux gens qui vont sortir, c'est maintenant
que vous allez construire les comportements et les gestes qui vont nous permettre de construire le monde meilleur et plus sécure qu'il n'était avant la pandémie. Il faut garder un message d'optimisme serein.
Marie-Paul Kieny, oui, restez là. Marie-Paul Kieny, sur les leçons à tirer de ce qui se passe actuellement, j'imagine qu'il y en a en matière de santé concernant justement les choix qui peuvent être faits par nos sociétés sur le fait d'avoir fait confiance à l'économie mondialisée pour un tas de choses, y compris pour la santé. Quelles sont, d'après vous, les priorités des priorités ?
Alors il faut repenser le monde dans lequel on vit. C'est sûr que la mondialisation, l'économie, la globalisation de l'économie, de la santé, la privatisation de la santé sont des concepts que tout le monde pensait comme étant acquis. Alors qu'en fait, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est qu'en fait, nous sommes une société d'humains, que l'économie et la société est faite pour nous, que la santé doit rester un bien public national et mondial, qu'il faut investir dans le secteur public, investir dans la santé comme dans l'éducation. Et on verra aussi, quand on fera le bilan, que certains pays qui avaient des systèmes sociaux plus avancés s'en seront sortis beaucoup mieux que d'autres. Regardons actuellement les États-Unis, c'est terrible. Le nombre de gens qui n'ont pas droit à des services médicaux, le nombre de chômeurs qui a augmenté de façon catastrophique. Donc reprenons une société qui est là pour les humains et non pas pour l'économie.
Voilà pour votre conclusion. Merci beaucoup Marie-Paul Kieny pour la conclusion pour la société. Patrick Clairvoy, une conclusion peut-être pour nous, pour chacun d'entre nous. Et vous avez, allez, pas plus d'une minute, sachant qu'on en parlera tout à l'heure au téléphone sonne.
Eh bien écoutez, pour faire le lien avec ce que vient de dire Marie-Paul Kieny et les États-Unis et les gens qui étaient dépourvus de systèmes médicaux, rappelons que c'est la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale qui a amené chez nous la création de la sécurité sociale et de tout un système de soins qui fonctionnait très bien. Et effectivement, redonner aussi à la prévention, à la médecine de prévention, qui ne rapporte pas grand-chose de suite, bien évidemment, mais on voit bien que c'est la médecine de prévention qui va nous aider à faire face à ce coronavirus qui s'est installé chez nous, avec lequel nous allons apprendre à vivre. Non seulement vivre bien, peut-être aussi vivre mieux.
Eh ben merci beaucoup pour ce message positif à tous les deux. Un très grand merci. On va d'ailleurs voir avec notre rubrique Confiné mais pas résigné que ce que vous dites, c'est déjà une réalité avec le carnet des solutions de Philippe Bertrand ce soir. Bonjour Philippe, ce soir, des super livreurs, super sportifs.
Bonjour Claire. Comme nous le savons, les sportifs sont privés de toute compétition. Et c'est à Clermont-Ferrand qu'une poignée d'entre eux a décidé de conserver une activité physique au service des personnes âgées. Des commandes alimentaires, des livraisons de médicaments, Thomas et Margot ont enfourché leur vélo pour assurer ce service 100% gratuit dans un rayon de 10 km autour de Clermont-Ferrand. Margot, lui, est pilier de rugby à l'AS Romagna, qui joue dans le top 16 féminin. Elle aussi un des piliers des super livreurs, des super livreuses. Margot, bonjour.
Bonjour.
Avec les super livreurs et livreuses, vous avez créé un peu votre terrain d'entraînement ?
Oui, c'est un peu ça, c'est un peu allier l'utile à l'agréable. Ça nous permet à la fois de rester en forme et on met nos compétences sportives au service des autres, donc c'est super.
Comment les commandes parviennent à vous ?
Alors, on a mis en place un numéro unique et en fait, on gère un standard qui est ouvert de 9h à 17h30 tous les jours, sauf le dimanche. Les gens nous appellent, formulent leurs demandes, donc ça peut être... faire des grosses courses, ça peut être juste aller chercher du pain ou des médicaments à la pharmacie ou poster des lettres. Et du coup, ça permet de recréer un petit peu de confort à ces personnes qui ne peuvent pas sortir depuis des semaines.
Et le temps de livraison est aussi un temps de parole avec les personnes âgées ?
Oui, exactement. C'est un projet de lutte contre l'isolement de ces personnes. Donc, ça permet de garder un lien social. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on part en livraison, on passe, tout en respectant les procédures sanitaires, mais on passe un certain temps chez la personne à pouvoir discuter, échanger. Et elles sont très très contentes justement de pouvoir avoir ce lien.
Et en ce moment, d'autres professionnels vous rejoignent comme le cycliste Rémi Cavagna.
Oui, exactement. En fait, Rémi a eu connaissance de notre initiative. Et du coup, il nous a rejoints et c'est assez chouette puisqu'il participe avec nous à toutes ces actions solidaires qu'on met en place. Donc on l'envoie dans des zones un peu loin, on en profite.
Et évidemment, les plus doués vont le plus loin. C'est un esprit d'équipe que vous avez reconstitué.
Oui, tout à fait. Ce qui est assez rigolo, c'est que même moi avec Thomas, on se connaissait pas du tout. Et tous les membres de notre équipe, on s'est tous découverts autour de ce projet et tout le monde voulait aller dans la même direction. Et c'est une vraie équipe solidaire qu'on a mis en place et on espère justement après le confinement pouvoir garder cet esprit et se rencontrer en vrai finalement.
Et c'est le propre du monde du sport aujourd'hui de jouer cette carte de la solidarité?
C'est vrai qu'au rugby ça fait partie notamment des valeurs qu'on retrouve à haut niveau. C'est pas toujours évident de pouvoir le garder, mais on essaie toujours justement de garder ces valeurs de solidarité et je pense que c'est important et qu'il faut garder ça, oui.
Alors il y a un numéro d'appel et puis il y a aussi la page Facebook des super livreurs, des super livreuses. Si vous voulez rejoindre l'équipe, il n'y a aucun problème. Si vous avez un bon coup de pédale, vous pouvez y aller. Je pense que vous êtes toujours preneur de toute façon de candidats.
Ah oui, tout à fait. On est preneur de pouvoir agrandir notre équipe.
Formidable. Il s'appelle donc les super livreurs, les super livreuses, avec Thomas, cycliste, et Margot, pilier du top 16 féminin à l'AS Romania. Merci Margot.
Et merci à vous Philippe Bertrand. À 19h20 au téléphone sonne, vous allez nous dire ce que le confinement et plus largement cette crise a changé dans vos vies, si tout ce que nous vivons vous conduit à revoir vos priorités dans la vie. Pour cela, appelez le 01 45 24 7000.